Radio Canyon présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La lumière, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Chez dans l'église vide, assis sur une chaise, près du corps et pris. Son visage est calme, détendu, puis sort de l'église. Entre dans une boulangerie, en ressort avec un sac en papier avec des croissants, puis entre dans son allée. Et dépose les croissants sur le paillasson de Marc. Sonne et s'apprête à partir. La porte s'est ouverte d'un seul coup. Il la voit et voit les croissants. Il est en slip. Prend le paquet et lui dit : C'est pour moi ? Merci. Elle sourit. Vous voulez entrer ? Non, je n'ai pas le temps ce matin. Je dois aller à l'hôpital. Elle descend les escaliers. Il ferme la porte. fait beau. Ils sont dans le parc à se promener en marchant. Elle lui dit, c'est fou la force qu'ont certains vieillards à vivre. Moi, j'ai une vieille dame qui a plus de 90 ans. Toujours bien habillée, coquette, et se tient droite comme un lit. Et pourtant, elle en a eu des malheurs. Eh bien, rien n'y fait, elle continue à vivre dignement. Et qu'est-ce qui la force à continuer à vivre? C'est la foi. Elle croit, elle a toujours cru que Dieu était près d'elle, même lorsque son mari est mort, même lorsqu'elle a eu un cancer. Elle a une foi vraie, pure, comme c'est des enfants qui ne se posent pas de questions. Il vaut mieux pour elle, car si elle s'en posait, elle ne l'aurait plus. C'est si simple la foi, sans réfléchir. Ça arrange les prêtres. Il soupire et donne un coup de pied à un caillou. Elle le regarde et lui dit, « Ne croyez pas cela, c'est plus difficile de croire avec son corps qu'avec son esprit. La preuve, vous, vous n'y arrivez pas. Moi, mais je ne cherche pas. C'est vous qui le dites. Comment cela? Si vous ne cherchiez pas, vous ne seriez pas si sûr de vos idées sur la foi. C'est compliqué tout ça. » Elle sourit et lui dit, « Pas plus que cela. » Elle lui lance des feuilles mortes qui ont été oubliées. Il se trouve après, pour la première fois, ils jouent comme des gosses. Ils se sentent bien. Quelques jours plus tard, il est chez lui, étudie, assis à sa table, plein de cahiers et de livres ouverts. C'est le soir. On sonne à la porte. Il va ouvrir. C'est elle avec un grand livre. « Bonjour, je suis venu voir si vous n'aviez besoin de rien. »« Non, merci. » Il voit un livre et lui dit, « Vous reprenez vos études ?»« Non, ça c'est la Bible. » Lui fronce ses sourcils. Elle a l'air charmante. Elle la trouve charmante. Quelle idée ce livre, cela gâche tout. Il lui dit énervé, « Ça ne m'intéresse pas ce livre. On n'y trouve rien de religieux là-dedans. Vous avez raison, c'est un peu déroutant. Quant à moi, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse vraiment là. Dans la Bible, c'est le Nouveau Testament. Mais si vous voulez, je peux vous le prêter. » Il hausse ses épaules. Elle lui dit pour le persuader. Juste pour le Nouveau Testament. Il se dit, s'il n'y a que ça qui peut lui faire plaisir. Il le prend et lui dit, c'est seulement pour vous faire plaisir. Elle sourit. Je dois me sauver. Je suis en retard. Elle descend les escaliers. Il ferme sa porte. Puisque le livre est là, le soir il le feuillette et en lit des passages. Petit à petit, il est pris par sa lecture. Quelques jours plus tard, ils sont tous deux assis à table chez lui. Le livre est sur la table. Elle le prend et ouvre les pages au hasard. Elle lui demande, « Ça vous a intéressé ?» Il hausse les épaules. « Il y a de belles choses, mais je n'arrive pas à croire aux miracles. » Continue à tourner les pages. Et lui dit, les miracles c'est un plus, c'est pour ceux qui en plus des mots, il leur faut des preuves tangibles que Jésus est bien le Fils de Dieu. Mais l'important, c'est ses paroles. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Les paroles sont très belles et fortes. C'est un beau message, mais il n'y a pas besoin d'être Dieu pour les dire. Elle lui dit, pour entrer dans le corps des hommes, ouvrir leur corps aux autres et à son amour, il n'y a que Dieu qui pourrait le faire. Il demande, pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Amour. Une fois qu'elle est partie, il réfléchit. Quelques jours plus tard, ils sont chez lui. Elle est assise à table, lui debout et hésite. Il lui dit, j'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit. Et il va vers le lit, prendre sur le lit une pile de journaux. Si Dieu est amour, pourquoi accepte-t-il tout ça ? Elle regarde les journaux et lui dit, c'est pas Dieu. Il a laissé les hommes libres de leur destin, c'est-à-dire de suivre la route qu'ils désirent. La sienne qui est amour ou les autres, c'est simple si l'on veut prendre la route de Dieu. C'est pas si simple, dites-le-moi. Elle regarde bien dans les yeux et lui dit, aimer son prochain comme soi-même et Dieu de tout son corps. Il pose les mains sur les journaux et lui dit, je vais réfléchir. Il est chez lui à terre, à réfléchir. C'est dur pour lui de réfléchir en étant impartial après ce qui lui est arrivé. Il faudrait qu'il se purifie de tout, c'est-à-dire oublier ses souffrances et voir s'il peut comprendre Dieu. Quelques jours plus tard, il fait doux, presque un temps de printemps. Après avoir marché, ils se sont assis sur un banc. Il lui dit, pour vous c'est facile, vous êtes riche, vous n'avez même pas à poursuivre vos études. L'argent arrange beaucoup de choses, si vous étiez dans la misère. Il lui dit, vous trompez, nous avons tous notre croix. Il le regarde et lui dit, j'aimerais bien savoir laquelle. Les croix invisibles font tout autant souffrir que les autres. Et elle se lève et se sauve en courant. Il la rattrape et lui dit, je vous demande pardon. Elle lui sourit, lui prend la main et il marche. Chez lui, à demi allongé sur le lit, à écouter un disque. Elle se soulève et lui dit, je dois partir. Je souhaite que votre âme ait trouvé la paix. Il lui donne un baiser sur le front. Il cherche à la plaquer contre lui. Elle se dégage. Furieux, il lui crie, Allumeuse. Vous trompez. Vous ne comprendrez jamais rien. C'était qu'un baiser de paix. Un baiser de paix, tout simplement. Elle se sauve en courant. Le lendemain, il la rencontre dehors avec un cabas. Il lui dit Penaud, je vous demande pardon. Elle lui sourit et lui dit, je ne vous en veux pas. Au lieu de tourner en rond comme vous faites, vous feriez mieux de chercher à aider les autres. C'est facile pour vous, aller de l'un à l'autre. C'est facile pour vous. Tout est lisse dans votre vie. Moi, j'ai le corps et l'âme malade. Elle lui sourit et lui dit, si l'on veut, on peut rendre lisse ce qui ne l'est pas. Comment? Faites comme moi, chaque matin soufflez un bon coup. Soufflez, allez, c'est ce qu'il fait. Si vous êtes libre, venez avec moi, vous m'aiderez. Il lui sourit et lui prend la main. Elle lui dit, nous allons d'abord faire les courses de Madame Camille. Le soir, ils montent les escaliers de leur allée. Elle a un sac vide. Ils ont l'air exténués. Avant qu'il entre, elle lui dit « Ça n'a pas été trop dur, non ?» Elle lui dit « Bonne nuit !» Et elle descend chez elle. Il ouvre sa porte. Dans une église, elle lui dit « Je vais me recueillir ici tous les matins. » Ils vont jusqu'à la nef et s'assoivent. Lui est venu pour lui faire plaisir. Il lui dit « J'ai pas envie de prier. » Ne vous forcez pas. Détendez-vous, pensez à ce que vous voulez, ce que soit cette journée, et dédiez-la à une personne que vous aimez. Si ça vous fait plaisir, je le fais. Je suis venu pour vous plaire. Et il se tait. il est chez lui et lit la Bible en réfléchissant. Les jours passent. Il est chez lui, habillé sur le lit. L'on sonne. Il va ouvrir. C'est elle, il l'a fait entrer. Elle lui dit, « Ce matin, je me suis réveillée et tout m'a paru plus pur, clair, limpide. Je ne me pose plus de questions. Je crois, j'aime. C'est vous qui m'avez apporté cette plénitude. Merci. » Il la regarde bien et lui dit, oh, « Vous êtes si lumineuse, si calme. On a l'impression que rien ne peut vous atteindre. Faire du mal, elle sourit. Sont souvent ensemble, se promènent au jardin, dans les rues, main dans la main. Elle est à l'église, au marché, elle lui dit, « Faudra aller chez Mme Martin, qui n'a pas bougé de son lit, etc., etc. » On les voit rire, courir, être heureux. Il se sent bien, il ne pense plus à ses peines, ou plutôt, il a ouvert son corps aux autres. Avant d'entrer chez lui, il lui dit « À demain ?»« Non, c'est mon jour d'hôpital. »« Mais que faites-vous là-bas ? Je peux venir vous aider ?» Elle lui sourit et lui dit « Non, là c'est impossible. C'est moi qui dois me débrouiller toute seule. » Puis, elle l'embrasse sur la joue et se sauve en courant. Les deux assis l'un près de l'autre, il a pris la main et lui a dit « J'ai bien réfléchi, j'aimerais vous épouser. » Elle est émue, elle a les larmes aux yeux et lui répond « Je suis très flattée, mais c'est impossible. » Il est surpris. « Je vous aime, Le mariage n'est pas interdit. Elle gênait. Non. Et je suis très touchée de votre demande, mais je ne peux pas. C'est impossible. Impossible. Lui, furieux. Alors allez-vous-en. Elle se lève, calme, et sort. Il pleure. Quelques jours plus tard, il n'a pas eu de nouvelles d'elle. Il se promène tristement dans les rues et pleure. Il est chez lui, l'on sonne à la porte. Il va ouvrir. C'est un homme maigre d'une soixantaine d'années.
Bonjour monsieur, je suis votre voisin du dessous. J'ai fait une quête pour acheter une couronne à la fille de notre propriétaire, mademoiselle Blanche de Haute-Bord, qui vient de décéder. Marc n'arrive pas à comprendre cette horrible nouvelle.
Elle est morte ? Demande-t-il ému et ayant peur de la réponse.
Oui, la pauvre petite, cela faisait des années qu'elle avait la leucémie. Elle était bien courageuse et charitable.
Marc veut se retrouver seul pour souffrir. D'un geste nerveux, il cherche dans ses poches de l'argent. Il trouve un billet qu'il met dans la boîte de l'homme.
Au revoir, monsieur.
Il a les larmes aux yeux. L'homme le voit et le quitte. Une fois la porte fermée, il court se jeter en pleurs sur le lit, la tête la première. Après un long moment de pleurs, il se met sur le côté et dit les larmes aux yeux.
Blanche, je me souviendrai toujours de ce que tu as été. Tu es dans mon cœur. Je n'oublierai jamais que c'est toi qui m'as appris à vivre et à porter l'amour.
Le soir est tombé. Il est allé à l'enterrement. Ça a été très pénible. Mais elle a voulu être fort pour elle. Les jours passent, c'est très dur pour lui. Il pense constamment à elle, mais ne veut pas sombrer dans le désespoir. Pour lui rester fidèle à ce qu'elle lui a dit, elle essaye de penser à elle comme si elle était vivante. se demandant ce qu'aurait pensé Audie Blanche. Il la garde dans son corps, vivante et immortelle, comme il croit qu'elle le souhaiterait. Son appartement lui rappelle trop de souvenirs et le soir, il se promène au hasard dans les rues de la ville. Au hasard dans les rues de la ville, dans ses pensées. Un soir, en sortant des cours, son cartable à la main, il marche dans les rues désertes. C'est le printemps, mais il fait froid, un froid avant la neige. Il ne sait pas où il va, ses pensées sont vert blanches. Sans s'en rendre compte, il se trouve dans un quartier de la ville qu'il ne connaît pas. Rue triste, sale, déserte. Il ne s'en rend pas compte. Son corps est vert blanche. Tout à coup, en passant devant une allée, il est violemment pris au collet et poussé dans l'allée. Il est plaqué contre le mur. Donne-moi ton fric ou je te flingue. L'allée est noire, sale, triste, des détritus à terre, une odeur de pisse, d'humidité, les murs dont la peinture s'écaille. Il a peur en voyant tout ça. Dans la bagarre, il a lâché son cartable vers l'entrée. Le voleur le voit. Il lâche Marc pour prendre le cartable. Marc en profite pour se sauver, mais le fait paniquer dans le sens opposé à la porte. Monte les escaliers. Le voleur qui a pris le cartable le suit, montant en se tramponnant au mur. Il a appuyé sur la minuterie qui marche encore. Le voleur s'approche. Marc est au premier étage. Il trouve une porte et de toutes ses forces se met à frapper, frapper, frapper sur la porte. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Le voleur est derrière lui. Marc ne le sent pas. Il continue à frapper, à frapper. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Tout à coup, il entend derrière lui. Il n'y a personne. La maison a été occupée. Vidé de ses occupants. Marc, épuisé, se retourne, se plaque le dos contre la porte et se laisse descendre. Il voit l'autre debout, devant lui, le cartable à la main. N'est pas très grand, mince, les cheveux courts, bruns. Il doit être assez jeune, dans les 22 ou 25 ans, peut-être moins, ou paraître beaucoup plus jeune qu'il en a l'air en réalité, le visage rond, juvénile. Tout son physique lui donne un côté gringalet, habillé d'un vieux blouson de cuir marron râpé, d'un pantalon velours rouge. Marc sourit et se demande comment il a pu avoir peur de lui. Puis, redevient sérieux, il dit plus à lui-même qu'à l'autre. « C'est idiot, j'ai pris peur. Peur de quoi ? De la mort ?» L'autre s'assoit à ses côtés, sur le sol. Tu peux reprendre ton cartable, j'en ai plus besoin, j'ai besoin de rien. Marc le regarde et lui demande, alors pourquoi ? L'autre aux épaules et lui dit, bien sûr, tu ne peux pas comprendre, toi, avec ta bonne mine, tes vêtements coupés tailleurs et ta tête un peu enfant. Tu ressembles à Frédéric Thomas, l'acteur. Qu'est-ce que tu peux connaître de la vie ? Avec ta petite vie, bien tranquille, ton petit monde, bien à toi. Oui, bien sûr, quand tu veux savoir ce qu'est un pauvre, le monde, tu te plonges dans tes bouquins. Marc triste, boudeur, lui répond. Ne dis pas cela, moi j'ai voulu. L'autre aux épaules. Voulu quoi ? Comment peux-tu vouloir à la place de quelqu'un que tu ne connais pas ? Moi, ma vie, mon monde, se trouve dans l'humidité, la saleté, la nuit. Je nais dans un monde et je dois y rester. Votre monde à vous m'a toujours été interdite. Je vis dans un univers sans loi ni foi, où il faut lutter pour vivre, se nourrir. Je suis prostituée, j'ai volé et j'ai même fait pire, et ceci depuis l'âge de 14 ans. Je ne sais pas ce que c'est que de dormir dans un lit. Je suis toujours en fuite. Je couche avec les rats. Je suis en guerre contre vous tous, et vous êtes en guerre contre moi. Marc lui met la main sur l'épaule et lui dit, tu crois qu'il y a un autre monde ? Une fois, j'avais 12 ans. Ma mère me mena avec elle dans une maison où elle devait aider à la cuisine. C'était une grande, une très grande maison. Un hôtel particulier, comme ils disent. L'on mena ma mère aux cuisines. Ma mère me fit asseoir dans un coin. Au bout d'un moment, je m'ennuyais. Alors, je me levai et sortis. Ce fut comme dans un rêve. Je visitais les pièces. Il n'y avait personne. J'avais vu autant de belles choses. Tout était velours, lumière, dorure. Je n'en croyais pas mes yeux. J'étais tellement émerveillé que je ne me rendais pas compte que dans les maisons, un orchestre invisible à mes yeux jouait. J'étais tellement émerveillé que pour moi la musique faisait partie intégrante à tout ce que je voyais. J'ouvris une porte et je vis dans la pièce une jeune fille d'à peu près mon âge qui se trouvait devant un miroir, debout, les mains derrière le dos. Je ne fus pas du tout surpris de voir cette jeune fille, car elle aussi faisait partie de ce monde. Je vis qu'elle était fort belle. Elle me prit par les deux mains et me donna un baiser. Je m'appelle Flore. Ensuite, je suis retourné à la nuit. Charles lui dit, Vous rêviez de luxe?
Non, de lumière. J'en avais assez de ce gris, de cette crasse.
À 14 ans, je me suis fait prendre pour avoir volé une mobylette. Après la maison de correction, j'ai vécu en dehors de la société. J'ai tout fait, absolument tout. Maintenant, je suis prisonnier de cette vie.
Marc lui demande, tu aimerais t'en sortir?
C'est impossible, car pour que je m'en sorte, il faudrait que vous me pardonniez tout ce que j'ai fait.
Mais on ne pardonne jamais, il faut payer.
Pourquoi cherches-tu le pardon? Tu pourrais tout simplement payer.
L'autre se sent ému et d'un coup dit,
je ne sais pourquoi, mais j'ai besoin en plus de ma vie de sortir mon âme de la nuit.
Va voir un prêtre?
L'autre le regarde surpris.
Un prêtre? La religion? Non, ils font partie du monde.
Marc lui dit, Dieu?
C'est pareil, Dieu, la religion, les prêtres.
Non,
non, ce n'est pas pareil.
Car Dieu n'appartient à personne, il est pour tous.
Il a donné ses directives à Pierre pour qu'il bâtisse son église, une église universelle pour tous les humains.
Dieu, comment pourrait-il me purifier?
J'ai fait des choses horribles, j'ai même tué.
Crois en lui, sois sincère en demandant pardon pour tes péchés et il te pardonnera.
C'est tout?
Non, une fois que tu croiras en lui, il fera de toi un homme nouveau sans péché.
Je ne pécherai plus.
Tu ne devras plus pécher.
Comment?
En aimant ton prochain comme toi-même.
Et je verrai la lumière.
Si tu veux la lumière, Dieu te la donnera et te protégera des tourments de ce monde.
L'autre ému demande, comment faut-il faire?
Vous dites simplement avec votre corps, mon Dieu, je vous aime.
L'autre ému répète, mon Dieu, je vous aime.
Marc, encore plus ému et tremblant, lui dit,
viens, viens.
Il se lève. Prends la main de l'autre qui se lève ému.
Marc le guide vers un lavabo du palier qui se trouve entre deux portes.
Et lui dit,
tu veux bien?
Oui.
Ils sont tous deux émus. Les larmes aux yeux,
baisse la tête.
Marc
met la tête sous le robinet.
Comment t'appelles-tu?
Emmanuel.
Emmanuel, au don de Dieu,
je te baptise.
Et il ouvre le robinet.
L'eau jaillit sur la tête d'Emmanuel comme le jaillissement d'une nouvelle vie.
Marc sent que ce baptême est aussi le sien.
Puis, il ferme le robinet.
Relève-toi.
L'autre voit Marc. Surpris, il lui dit,
vous pleurez?
Oui,
car c'est comme si tu venais de naître.
Ton âme est pure.
Avec l'aide de Dieu, tu pourras purifier ta vie et vivre dans la lumière.
Il Emmanuel s'inquiète et dit « Mais pour les hommes, je suis toujours le même. » Dieu ne veut pas que l'on juge. Il n'y a qu'une justice, c'est la divine, dit Marc. Puis, il s'assoit à terre, le dos au mur. Emmanuel met la tête sur l'épaule de Marc. Il dit « J'ai peur. » « N'aie pas peur, Emmanuel. Dieu te protège. Tu n'es plus seul maintenant. » Il reste un long moment sans bouger ni parler. Ils sont bien. Ils ont tout oublié. Le jour s'est levé. Marc et Emmanuel sortent de l'immeuble. Tout à coup, ils voient devant eux un homme grand, maigre, en jean. Il a la main une carabine. L'homme crie « Emmanuel, fumier !» Emmanuel, apeuré, dit à Marc « Travaillons ensemble. Il croit que j'ai volé son butin. » Il est paniqué. Marc n'a pas eu le temps de lui parler qu'il se met à courir droit devant lui. La rue est déserte. Il entend derrière lui « Arrête ou je tire !» Emmanuel court, court, court. Il a envie de pleurer. Et tout d'un coup, en une seconde, c'est sa nouvelle vie, qui n'est plus seul. Il crie « Mon Dieu, protégez-moi, protégez-moi, mon Dieu !» S'est arrêté net. Et tombe la tête la première. Marc, qui courait derrière lui, accourt. Met la tête sur ses genoux. Il vit encore. Lève légèrement la tête et dit « Oh, la lumière, la lumière. » Le soleil vient d'illuminer son visage. Il est mort dans les bras de Marc qui pleure. Pleure de rage, de remords et d'amour pour ce petit être qu'il n'a jamais connu. Mm.
foule. Pourquoi a-t-il tiré?
Et cet homme-là, le mort, qui est-ce?
Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu avant.
Il était dans l'escalier, c'est tout ce qu'on sait. Mmh. Alors, on monte.
Allons-y.
Puis, une fois que la police, l'ambulance est venue, Marc s'est trouvé seul, sans rien, juste sa peine. Il court les rues désertes, en hurlant « Non ! Non ! Non !» Puis s'arrête, se plaque contre un réverbère et dit « Que faire ? Quel espoir si tout aboutit au néant ? Quel espoir ? Aidez-moi si vous voulez que je vive. Mon Dieu, Blanche, mon Dieu. » Pleure, puis se remet en route. Se remet en route, épuisé, démoralisé. Il est dans une plaine, assis, voit le ciel se lever et son corps s'illumine. J'ai compris. Oui, le salut dans la lumière vient d'en haut, pas de ce monde. La lumière. Emmanuel a voulu la lumière. Dieu l'a mené vers la lumière. Blanche savait que sur terre, l'on ne vit que pour se préparer à l'autre monde. La lumière vient d'en haut et il se lève. Son visage s'illumine en même temps que le ciel. Thank you. Radio Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junet Jean-Pierre, La Lumière, dont c'était la deuxième partie. Production, mise en scène, Junet Jean-Pierre, enregistrement CVRP.